sur les affaires les plus glauques à de simples rumeurs ou des malentendus, etc. Allez, un dernier article qui rentre un petit peu plus du coup dans quel était vraiment ce réseau. On a commencé à en voir à le dévoiler avec le CRA. Allez, enfonçons-nous là dans tout ça. Le Corral, donc la mère de toutes les affaires de pédocriminalité. Les années 70 sont propices aux expériences de toutes sortes. Mai 68, c'est la mort symbolique du père, est passé par là, avec sa poudre magique qui libère les corps, les esprits, les désirs, les interdits, tout ce qu'on croyait figé. Des individus, des collectifs prennent la tête de la radicalité, c'est à qui ira le plus loin en se basant sur des recherches théoriques de plus en plus osées et parfois délirantes. L'extrême gauche est à la pointe de toutes les expérimentations soi-disant culturelles. Le phare, FHAR, a pour objectif de détruire le mariage et la famille. Grand programme. En matière de soutien psychiatrique aux jeunes en difficulté, qu'ils soient délinquants, retardés, autistes, psychotiques, suicidaires ou drogués, une expérience de vie en milieu ouvert, l'inverse des milieux fermés dits asilaires, fait florès. La période est à la nouveauté, à l'ouverture, au renversement des valeurs. L'antipsychiatrie remet en question le dogme de l'enfermement et de la punition. On peut soigner autrement, ou du moins soulager ces mineurs en souffrance, au moyen d'une approche originale par des encadrants qui remplacent en quelque sorte affectivement les parents. Ce sera le Corral, un centre, pardon, un lieu de vie, imaginé en 76 par le CRA, donc le collectif Réseau Alternatif, avec à sa tête Claude Cigala, qui deviendra tristement célèbre. L'affaire commença en 82, donc avec une perquisition, à Aimargues, une vieille ferme du Gard. Rappelons que le Parti Socialiste et François Mitterrand sont aux commandes du pays depuis un an et demi. Nous sommes à la fin de la vague rose, celle de tous les enchantements, de tous les espoirs gauchistes et prolétaires. Le juge Michel Chazeman ouvre son instruction suite à la plainte de parents. Trois membres du Corral sont mis en examen pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de 15 ans et incitation de mineurs à la débauche. On ne parle pas encore de pédophilie. Sont visés le directeur Claude Cigala, le psychiatre Alain Capello et l'éducateur Jean-Noël Bardi. Ce dernier reconnaîtra avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs dans le cadre de sa nouvelle méthode thérapeutique. Pourtant, 5 ans auparavant, un garçon de 11 ans est découvert mort au Corral et l'enquête se perdra dans les limbes, malgré la constatation d'une pénétration anale et de vertèbres cervicales brisées. À l'époque, un autre pensionnaire, mais pas un adulte, considéré comme dément, est aussitôt suspecté. Il a 17 ans au moment des faits et dans le procès qui suivra, il bénéficiera d'un non-lieu. Pourtant, 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 80, il est réintégré au Corral. Mais ce n'est pas tout. Un ex-animateur, un peu escroc sur les bords, falsification de chèques, donc, se rendra spontanément chez les gendarmes pour témoigner de rapports sexuels plus ou moins consentis entre les jeunes pensionnaires et les adultes. Il donne des noms, des lieux, des dates, des circonstances. Le problème, c'est que les adultes abuseurs en question ne sont pas que des encadrants. Il y a aussi des écrivains, des photographes, des journalistes et des personnalités du monde politique. C'est la deuxième bombe de l'affaire du Corral, la mort du jeune garçon n'ayant pas véritablement ému la presse de l'époque. Maintenant que des personnalités extérieures au Corral sont dans la boucle, l'affaire devient politique. Parmi ces personnalités sont cités Jack Lang, alors ministre de la Culture, Claude Cigala, déjà suspecté dans une affaire d'abus sexuels dans un centre de Marseille, le juge pour enfants Jean-Pierre Rosenzweig, qui deviendra dans les années 90 le président du tribunal pour enfants de Bobigny, le philosophe René Scherrer, qui a soutenu médiatiquement tous les pédophiles accusés dans les années 70, le psychothérapeute Léonid Kamenev, qui emmenait des enfants sur son école en bateau, et enfin Gabriel Matzneff, l'écrivain qui aime les jeunes filles, soi-disant. Des noms sont cités, mais le magistrat se méfie. Aucune preuve ne vient étayer la liste de noms, sinon des faisceaux de soupçons. Pour leur malheur, ces personnalités médiatiques sont de toutes les pétitions pour autoriser l'amour libre, notamment entre adultes et enfants, ce qui les place tout de suite sur la liste des accusés. Mais elles n'ont pas forcément été des visiteurs du Corral. La parole de Krief est mise en doute par les enquêteurs, qui se fient plutôt à celle des parents, qui sont au départ très réticents. Pour eux, la méthode Cigala est moderne, humaine et efficace. Elle les soulage surtout de leurs enfants difficiles. Pour eux, les pensionnaires sont heureux au Corral. Les parents déchanteront vite, comme ceux des jeunes stagiaires de l'école Marie Pantalon et celle de Font et Val à Villars-sur-Thône, en Haute-Savoie. Délinquant récidiviste, arrêté à la suite d'une agression, Denis se voit proposer par un juge le choix entre la prison et un stage de réinsertion au Corral, lieu de vie pour jeunes psychotiques. Au Corral, Denis, mal dans sa peau, écorché vif et solitaire, vit d'abord douloureusement la promiscuité avec des personnes si différentes de lui. Peu à peu, les démarches d'approche malhabiles et sincères de ces jeunes vont l'amener à modifier son regard sur le monde. Pour la première fois, il ne se trouve plus dans un rapport de survie ou de consommation, mais se sent socialement et humainement utile. Au contact de leurs souffrances, de leurs jeux, de leurs larmes et de leur rire, il va se révéler à lui-même, découvrir des sentiments inconnus et exprimer l'intense besoin de tendresse qu'il porte en lui. voyez le genre de discours qu'on pouvait entendre à l'époque. Donc ça, c'est issu de l'acide.org. Et effectivement, donc c'était une fiction pro-Caral de 95. Donc le juge Salman, qui inculpe d'autres personnalités, subit les pressions de la presse et du lobby homosexuel, qui à l'époque n'est pas séparé du lobby pédophile, comme le prouve l'excellent ouvrage de Frédéric Martel, Le Rose et le Noir. Car il y a un lobby pédophile, ce sont en partie les signataires de la lettre parue en 77 dans Libération, que le quotidien gauchiste traîne comme un boulet depuis 4 décennies. À noter que les policiers qui enquêtent sur le choral ne se basent pas sur les dires de Krief, ils suivent aussi les témoignages de parents conscients et surtout de la parole des enfants eux-mêmes, qui décrivent par le menu ce qu'ils ont subi. Par exemple, des photos sont prises au choral entre adultes et enfants, et le photographe, René Offrand, se fait poisser. On retrouve chez lui des milliers de clichés pédopornographiques. Krief, s'il n'est pas fiable à 100%, ne ment pas, ou pas toujours. Le procès aura lieu en 86, les principaux responsables sont condamnés à de la prison plus du sursis, mais toutes les peines seront réduites un an plus tard en appel, et personne ne passera la moindre année au trou. L'affaire s'arrêtera là. Le choral reprendra ses activités, comme si de rien n'était. C'est la première grande affaire de pédophilie ou de pédocriminalité française, et elle est emblématique à plus d'un titre. D'abord la presse, hormis celle de l'extrême droite, Minute et Le Crapouillot, n'est pas trop allée fouiller du côté des accusés, qui appartenaient tous à la mouvance gauchiste idéologiquement. De cette gauche qu'on n'appelait pas encore sociétale ou progressiste. Il était les chantres, la cheville ouvrière, celle qui ouvre les portes pour les autres. Sigala, par exemple, transformera la charge du juge en harcèlement contre toute méthode alternative, en volonté de nuire à des lieux de vie, en alignement sur la psychiatrie traditionnelle dite autoritaire. Pour ce juge, un peu seul contre tous, n'a pas jugé l'antipsychiatrie seulement les débordements de la méthode Sigala, qui avait l'heure de plaire à beaucoup d'adultes progressistes, comprendre amateurs d'enfants. Il sera bien sûr, comme pour le procès pédophile d'Outreau, 97-2000, question de la parole de l'enfant, de son authenticité, de sa crédibilité. Pourtant, les pédopsychiatres savent aujourd'hui décrypter la parole de l'enfant qui se disent abusés ou qui le disent avec leurs mots. Cela ne s'invente pas, comme on dit. Dans cette affaire, qui lie le juridique au médical, au médiatique et au policier, la lucidité de certains ne sera pas entendue. L'époque n'était pas au conservatisme, au rétrograde, à la droite tout simplement. Le commissaire principal Patrick Rioux dira, je cite, « J'ai eu le sentiment d'avoir affaire à des 68ards qui, sous prétexte qu'il est interdit d'interdire, refusaient de voir la réalité. » Fin de citation. Voici ce qu'écrit Le Monde le 13 janvier 86. Je cite, « Patrick Rioux est consciencieux, un méthodique. Cet ancien chef adjoint de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme distingue devant les juges de la 10e chambre correctionnelle 4 types d'adultes qui fréquentaient alors le choral. Les individus au-dessus de tout soupçon se consacrent avec une immense générosité à la rude tâche qui est la leur. Ceux mis en cause pour leur pédophilie par des enfants et des adultes, et le reconnaissant plus ou moins ouvertement, ceux accusés par des enfants qui ne pouvaient ignorer ce qui se passait, et enfin ceux, pédophiles proclamés, qui venaient passer des week-ends à Aimargues. » Fin de citation. Les adolescents présents au procès, mais enfants à l'époque des faits, témoignent, je cite, « Ce fut alors un beau chahut, mais bref, car si le policier dit ce qu'il avait à dire, ce fut bientôt au tour des adolescents de lancer contre leurs tourmenteurs d'hier leurs accusations. Didier, 19 ans, âgé de 13 à 15 ans au moment des faits, a raconté comment Jean-Noël Bardi, éducateur, l'a enfilé sous une tente. Lui et Nordine, 15 ans aujourd'hui, 12 ans à l'époque, ont expliqué que Claude Sigala, responsable du choral, a voulu leur tirer des pelles. Ils ont des phrases courtes, leurs déclarations sont bourrées de points de suspension. Nordine raconte que Jean-Pierre Lanaise, qui élevait des reptiles, s'était mis nu, il a voulu se frotter contre moi. Son frère Farid affirme qu'il a dû quitter la tente de Bardi pour pouvoir dormir tranquillement. Pierre, 18 ans, 14 ans à l'époque, explique que Lanaise lui a proposé de coucher avec lui. Je suis parti voir Sigala, il m'a dit « Ici c'est normal ». Sigala a bondi, ce fut le seul. Il avait prévenu au début de cette deuxième audience « Je suis un bélier ». À chaque fois, il entame un dialogue qui tourne court. « Tu n'as plus de papa ni de maman. Il se peut qu'un jour tu aies senti de ma part un baiser plus bizarre que d'habitude. Moi, je ne me souviens pas. Par contre, je sais que je t'ai embrassé souvent comme un enfant. » Didier maintient sa déclaration. Avec Pierre, il s'énerve. Il lui rappelle qu'il l'a recueilli, fugueur, en déroute. « Je t'ai sorti de la merde !» Michel, 14 ans à l'époque, l'un des principaux accusateurs, n'est pas là. La défense conduite notamment par maître Christian Charrière-Bourazel et Jacques Vergès proteste. Aurélien, 5 ans au moment des faits, accueilli au choral après un séjour de 8 mois en hôpital psychiatrique, n'est pas là non plus. Nouvelle protestation. Mais deux audiences sont prévues les 16 et 17 janvier prochains, au cours desquelles ils témoigneront peut-être. Des 4 témoignages entendus, disons simplement pour le moment qu'ils apparaissent crédibles. Fin de citation. À ces mots, Sigala explose, il oscillera entre menace et culpabilisation sur le mode « donc je t'ai sorti de la merde, c'est comme ça que tu me remercies », sans nier les contacts charnels, les baisers. On découvre alors, lors de l'interrogation des éducateurs, qu'il nie la dangerosité des faits, mais pas les faits eux-mêmes en substance. Il nie les viols ou les pénétrations, mais reconnaissent les besoins réels de tendresse, soi-disant. Chacun dit les choses à sa façon. Dans le tas des inculpés, il y a Gabriel Matzneff qui sera blanchi de tout passage au choral. En 82, l'écrivain collabora au Monde depuis 5 ans à la demande du directeur Jacques Fauvé. Il s'insurge et il est défendu par Maître Thierry Lévy. Vous savez, le fameux cyclope des Carpates, je vous renvoie à son fameux passage dans Ce soir ou jamais. Je cite « Naturellement, le lendemain, on a dit que j'étais hors de cause. Cela n'a pas empêché que j'ai été encore insulté et que certains ont pu écrire que, si je n'étais pas coupable, je pouvais l'être parce que j'étais l'auteur de tel poème ou de tel roman. » Fin de citation. La défense de Maître Lévy tiendra sur la personnalité de Krief qui a dénoncé pêle-mêle Matzneff et Jack Lang. Ce dernier ne sera pas inquiété, en apparence. Affaire dans l'affaire, pour dire la pression de toute une gauche puissante qui s'exerçait sur le juge Salzman, lorsque le directeur de la publication du périodique Le Feuilleton du Choral a été mis sous mandat de dépôt, la fédération anarchiste a protesté en arguant que, je cite, « La justice entend bien déstabiliser toutes les organisations et personnes qui œuvrent à éclairer l'opinion publique sur le véritable rôle pédagogique des lieux de vie et l'innocence des inculpés du choral. » Fin de citation. Donc là, on parle de la Fédération anarchiste française, au niveau national. Il est vrai que Lapéry est aussi l'animateur du comité d'action prison-justice, un des nombreux comités gauchistes calqués sur les comités révolutionnaires chinois. Mais l'anecdote du feuilleton du choral est plus qu'intéressante. Elle va révéler les liens entre le choral et le gouvernement. Extrait du Monde du 28 février 83, je cite. Dans ses 5 premiers numéros, ce feuilleton, diffusé à plusieurs centaines d'exemplaires, a notamment mis en cause le monsieur Jean-Pierre Rosenzweig, chargé d'une mission au secrétariat d'État chargé de la famille et ancien juge pour enfants au tribunal de Versailles. Dans le numéro 4, monsieur Sigala écrivait « Le 12 septembre 82, à la veille de l'arrestation du responsable du choral, j'ai eu Jean-Pierre au téléphone qui m'a dit savoir que depuis une semaine se trame quelque chose autour du choral, mais qu'il n'a pas pu m'appeler. » Que de toute façon il me soutiendrait et qu'il est lui-même impliqué. Dans le numéro 6, on peut lire, sous le titre « Rosenzweig et le choral », « Assez de faux fuyants, Jean-Pierre Rosenzweig est l'exemple type de l'empoisonnement dramatique du dossier du choral. Il se tait, tant pis, nous parlerons pour lui. » Dans « L'élite rose », donc un livre, Jean-Pierre Rosenzweig est présenté comme un combattant anti-secret de la justice. Aujourd'hui, par son silence, il se place comme notre adversaire. Fin de citation. Donc ça commence à se tirer dans les pattes entre Sigala et Rosenzweig qui lui avait promis sa protection. Suite à cette mise en accusation directe, Georgina Dufoy, secrétaire d'État socialiste chargée de la famille, va tenter d'éteindre l'incendie en rappelant la moralité de l'État et les limites légales en matière de protection de l'enfance. Malheureusement, dans le numéro 4 du feuilleton du choral, il est question de Rosenzweig et donc d'une circulaire qui doit en quelque sorte entériner les lieux de vie, et plus important encore, leur procurer des subventions. L'affaire du choral va tout arrêter. Rosenzweig était-il lobbyiste dans cette affaire? Faisait-il le lien entre Sigala et le ministère? L'affaire étant par définition politique, il faut couper le lien le plus tôt et le plus bas possible entre les enfants, les encadrants, Sigala, les visiteurs et le gouvernement. Le ou les coupables doivent être circonscrits dans le choral. Il sera trouvé assez facilement lors de la première affaire du choral et portera le chapeau sans trop de difficultés. Mais lors de la seconde affaire, il se révolte et refuse une seconde fois le rôle de coupable désigné. Je cite... Un matin de juillet, on découvre le corps de Marc dans une des chambres du choral. Il a la tête plongée dans un seau d'eau javelisée. On croit à l'accident, mais une expertise médicale démontrera qu'il a été sodomisé et qu'il a eu les vertèbres cervicales cassées. On soupçonne aussitôt Jean-Pierre, un pensionnaire, un problème. Très vite, le juge d'instruction prononcera un non-lieu et le fera interner au titre de l'article 64 du Code pénal à l'hôpital psychiatrique d'Uzès. Jean-Pierre Lanez y restera enfermé 2 ans. Fin de citation. Donc Lanès est une personnalité plus que fragile, il est sous Aldol, un antipsychotique, comme Krief. Est-il le vrai ou le seul coupable? Il ne le sait pas lui-même, voire il le nie, dans Le Monde du 22 janvier 83. Je cite « Je suis innocent de ce crime, je dormais quand Marc a été tué. Comment un enfant aurait-il pu tomber dans un seau à 2 mètres de la tête de mon lit sans le moindre bruit, sans faire aucune éclaboussure? Il cherche les preuves dans ses souvenirs comme autant de sauvetage. Pendant 5 ans je me suis tu, mais quand l'affaire du choral a éclaté, j'ai eu peur de porter une fois encore le chapeau. Il a donc pris de son propre parti la décision de trancher un lien qui ne s'explique plus. Il parle pour gagner des forces, l'oubli, le pardon sont devenus de trop grands risques pour lui-même. Il s'anime à retracer le plan des lieux. Voyez, nous étions 4 dans cette chambre. Il pose les questions qui, depuis ce jour, n'arrêtent pas de tourner dans sa tête. Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé la culotte du petit? Pourquoi, alors que je le demandais, n'a-t-on jamais analysé mon sperme? Pourquoi les gendarmes, dès le premier interrogatoire, m'ont-ils fait lire deux fois, à voix haute, l'article 64 dans le code pénal? Comment savaient-ils qu'à l'époque je n'allais pas bien? J'étais déjà le coupable désigné. Fin de citation. Si l'ANES dit vrai, comme Krief a dit globalement vrai, les enquêteurs ont recoupé ces dénonciations avec les témoignages d'enfants et cela concordait. Alors qui a violé et tué le petit Marc? L'ANES reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec des enfants, mais il ne se souvient pas d'avoir assassiné Marc. Ces 2 ans passés en détention psychiatrique à l'HPDUSES ont-ils permis aux vrais coupables de se couvrir? Pour info, pendant l'éclatement de l'affaire Corral en 82, l'ANES choisira lui la cavale. Dans cette affaire tentaculaire, mais aux tentacules coupées, nous découvrons la structure de toutes les affaires de pédophilie ou des pédocriminalités qui suivront. L'extrême prudence des enquêteurs, l'option non réseautaire de la presse et son manque de travail d'enquête, la coupure des liens avec les hommes politiques, l'accusation de complot dans le cas de personnalités impliquées, le parti pris des intellectuels de gauche pour les victimes, attention, pas pour les enfants, hein, ces affabulateurs, mais pour les encadrants et les visiteurs du centre. La douceur de la justice, dont le bras s'élève haut mais s'abaisse doucement, et le tout finissant en nos lieux ou équivalents. Voici l'appel de François Châtelet, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye, Michel Foucault, Félix Guattari, Guy Hohenkamp et Jean-François Lyotard le 20 janvier 1983. Je cite. Des hommes, Claude Cigala, Jean-Noël Bardi, Roger Cortez, qui n'avaient jamais été condamnés auparavant, auxquels on ne reproche aucune violence sexuelle à l'encontre d'enfants, restent détenus. Une inculpation sans rapport avec le Corral, celle de René Scherrer, mis en cause uniquement par un mythomane et un faux document, est maintenue. Les enquêteurs si prolixes au début restent sur leurs insinuations. La plainte déposée pour faux en écriture publique reste sans effet. Une partie de la presse, à l'origine du scandale, responsable de la tournure prise par l'enquête, balai bleu, trafic d'enfants, réseau pédophilique, trafic de photos pornographiques, prise au Corral. Voire complicité d'assassinat et de viol, toutes ces incriminations qui n'ont jamais existé dans la procédure judiciaire n'ont jamais été rectifiées par cette même presse. Tout cela aboutit aujourd'hui à un dossier contesté, fondé seulement sur 2 témoignages d'adolescents. Fin de citation. C'est le moment de rappeler la pétition de la même élite culturelle diffusée en 77 dans Libération. On va pas la citer en entier. Je vous renvoie si vous à des liens sur notre site. Mais on va en citer juste un extrait. En janvier 77, 3 hommes comparaissaient devant la cour d'assises de Versailles pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Leurs 3 années de détention préventive déclenchent une pétition relayée par Libération, donc le texte ne laisse aucune place à ambiguïté. Une fois encore, il affirme que les enfants n'ont subi aucune violence et qu'ils étaient consentants. Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pourquoi faire? Demande la pétition. Le texte estime qu'il n'y a pas de crime et que 3 ans pour des baisers et des caresses, ça suffit. Voyez. Donc, qui signe ce texte? On va citer d'autres gens, Aragon, Bernard Kouchner, André Glucksmann, tous ces gens qu'on voit encore, hein. Jack Lang, évidemment, Patrice Chéreau, réalisateur, Daniel Guérin. Et il y a eu encore une lettre ouverte par la suite pour abroger des articles de loi, etc. Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Françoise Dolto, vous pouvez aller voir une vidéo notamment sur le mien vidéo sur ce qu'écrivait François Dolto qui était tout simplement dans l'apologie de la pédophilie. Jacques Derrida, le soi-disant philosophe. Philippe Solers. Il y avait une formidable phrase du temps, c'était, pour se défendre, il y avait tellement de pétitions, on signait presque automatiquement. Oui. Jack Lang a été interrogé récemment là-dessus. Il a reconnu que c'était soi-disant une connerie. Alors, c'était le même élément de langage pour différentes autres personnes. On voit que ces affaires ressortent quand même. Heureusement, comme des casseroles, comme Matt Neff, on est en train de faire le ménage dans toute cette pourriture qu'a pu produire mai 68. Il a produit des bonnes choses, mais a aussi produit tout ça. Continuons. Donc, ce quarteron d'intellectuel malhonnête et mal renseigné, on retiendra le nom de Félix Guattari, célèbre psychanalyste et philosophe qu'on pourrait qualifier d'ultra-gauchiste. Dans une interview donnée à la revue Mise à pied, aujourd'hui disparue et introuvable, une publication homosexuelle, il tiendra des propos sans équivoque. Je cite: Je saisis la présente occasion pour réaffirmer mon entière solidarité avec les groupes du CRA, ma confiance et mon amitié à Claude Cigala. Je m'élève contre le maintien des inculpations et des détentions dans cette affaire. Fin de citation. Dans ce genre d'affaires, lorsqu'une personnalité politique est citée, aussitôt une partie du système médiatico-politique crie au complot, au bouc émissaire, sur le mode de Brouillé en Artois. Une jeune fille de milieu modeste avait été assassinée et toute la presse gauchiste, Libération en tête, sous la plume du Moïse Serge Julie, sous pseudo, avait conclu à la culpabilité politique du notaire et de sa maîtresse, sans aucune preuve ni aucun mobile. Les aveux d'un fils de mineur, mineur au moment des faits, serviront de second front à la presse d'extrême gauche. Celui qui s'était dénoncé à la police obtiendra finalement un non-lieu, malgré des aveux circonstanciés. On retrouve dans les déclarations des pro-chorales ou des pro-pédophilies des éléments de langage très contemporains, par exemple la Ligue trotskiste de France qui voit une machination politique. Et un certain Bertrand Boulin, donc ex-animateur, donc fils du ministre suicidé et animateur de l'association SOS Enfants, qui dit « Cette affaire est la plus grave pour la démocratie que nous ayons connue depuis Vichy. Des hommes à l'évidence innocents pourrissent en prison simplement pour être les victimes au centre d'un complot contre la liberté. » Fin de citation. On noterait ici que la présomption d'innocence s'exerce très facilement sur les membres de l'élite politique ou culturelle, mais pas sur les gens de peu, comme Lanez, aliéné de son état. Sa culpabilité a été expédiée en un rien de temps, et personne n'a pensé à chercher plus loin, ou plus haut. Même Lanez s'en est étonné lui-même. Moralité, quand on est puissant, toute mise en accusation est possiblement un complot politique, donc un fantasme anti-élite, et qu'on est impuissant socialement, on est une victime de la société. Bref. Il n'y aura pas vraiment de coupable définitif dans l'énorme affaire du Coral, qui présente pourtant des faits similaires avec un centre pour mineurs situé à Marseille, que Claude Sigala dirigeait juste avant. De plus, la politisation du débat permet d'éviter de répondre sur le terrain glissant de la pédocriminalité. On part d'enfants violés, dûment violés, avec séquelles physiques et psychologiques, témoignages précis, et on en arrive à un procès politique, celui des thérapies alternatives. Le cas des enfants là-dedans, tout simplement, disparu. Alors on peut faire une petite parenthèse à ce moment-là. Je vous rappelle quand même qu'on parle dans le réseau CRA de 34 centres. Une enquête de police rondement menée, avec un peu de moyens, serait allée interroger tous les membres des animateurs de ces centres, les enfants. Je pense qu'on aurait trouvé les mêmes pratiques dans les 34 autres centres. Voilà. Peut-être pas, mais en tout cas dans un certain nombre, certainement. Donc là, c'est quand même, enfin bref, de l'enterrement d'affaires, étouffement d'affaires en règle. Continuons. Le centre de formation des éducateurs de Charenton, dans le 94, résume cette défense de rupture, je cite, « Que l'affaire du Coral n'anéantisse pas des années de travail et de recherche dans le champ de l'enfance difficile, c'est aussi le vœu de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. » Fin de citation. Et oui. Autrement dit, que ces quelques viols et par des encadrants un peu trop affectueux et visiteurs de passage ne remettent pas en question toute cette recherche en sciences sociales sur l'enfant et sa sexualité. Une sexualité en plein épanouissement, car voyez-vous, un enfant éveillé à sa sexualité est forcément plus heureux. Ça doit dépendre de l'éveil. Même son de cloche à l'ANEJI, A-N-E-J-I, le mouvement d'action éducative spécialisée qui joue sur la frontière floue des interdits. Elle ne l'est pas du point de vue juridique pourtant. Citons donc l'ANEJI. Mais nous affirmons la nécessité des lieux de vie qui accueillent les jeunes perturbés et leur redonnent espoir, et nous devons rappeler que le rôle des éducateurs dans de tels établissements est particulièrement difficile à assumer. Les réseaux de vie, comme tous les centres d'hébergement de jeunes ne pouvant espérer mener une existence normale, sont le théâtre d'actions limites se situant en permanence à la frontière des interdits. Surviennent parfois des drames frappant les jeunes ou l'équipe d'encadrement qui a accepté de courir des risques certains que d'autres ne voulaient pas ou ne pouvaient pas prendre. Fin de citation. Non mais on rêve. Alors on peut quand même citer toute cette mouvance des écoles alternatives, mais y compris, nous on a plein d'articles de presse avec des dérapages dans les écoles Montessori, on ne dit pas que c'est pas bien, on dit que c'est un milieu où idéologiquement les pédophiles se cachent facilement et font passer leur pratique plus facilement. Typiquement, Daniel Cohn-Bendit a été dans une école alternative en Allemagne, dont le nom m'échappe, c'était l'école Odenwald. Il y a tout un reportage sur Arte qui a été fait par les Allemands, évidemment. Et Daniel Cohn-Bendit était dans cette école, a été en tant qu'enfant, puis en tant qu'encadrant. Et il y a eu des abus sexuels sur mineurs, sur de nombreux enfants, pendant des années. En fait, voilà, je dis juste que c'est une histoire qu'on entend sans cesse, de ces lieux alternatifs qui étaient en fait des caches-misères de la perversité des gens qui les structuraient et qui les organisaient. Aujourd'hui, en 2021, on a une mode, effectivement, encore pareil. On ne dit pas que dans l'éducation nationale, il n'y a pas de problème, il y en a énormément. Mais faites attention aux écoles alternatives. Demandez les casiers judiciaires des gens. Revenons à nos moutons. En quelque sorte, les viols sordides ne sont que des sorties de route pour une recherche du bien-être pour tous, des enfants aux encadrants, en passant par la société tout entière, qui profitera de cette libération. Ce ne sont que quelques brebis galeuses, c'est ça, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, bien sûr, bien sûr. Heureusement, ces encadrants n'ont de cesse de ne pas franchir la limite autorisée, même si les enfants sont demandeurs. Alors ça, c'est encore... Je cite les arguments habituels. C'est le pédophile, il n'est pas vraiment pédophile, c'est parce que l'enfant est tellement amoureux de lui qu'il craque. Ben voyons. La démarche de ces non-institutions est fondée avant tout sur le désir de vivre ensemble et aboutit à supprimer la distanciation professionnelle des éducateurs d'institutions. Ainsi explique-t-il, notre mode d'approche envers le jeune est-il beaucoup plus assimilable au rapport que nous connaissons dans la structure familiale qu'à ceux du professionnalisme éducatif. Notre implication dans la vie quotidienne avec les jeunes nous oblige à être d'autant plus clairs dans les limites que nous fixons dans la relation affective. La plupart des jeunes que nous accueillons, qu'ils soient psychotiques ou délinquants ou cas sociaux, ont toujours à la base de leurs problèmes l'affectivité. Ce qui nous semble important, indispensable, c'est que les permanents soient autonomes affectivement, qu'ils aient leur propre vie affective et que le fait qu'ils accueillent des enfants ou adolescents ne soit pas pour eux un moyen de traiter leur affectivité, pour ne pas dire leur problématique. Fin de citation. Dans le même genre, on peut également citer l'affaire du foyer des Tournelles. Je vous renvoie un podcast consacré à cette affaire. C'était pareil. Grand foyer d'accueil de jeunes en difficulté, alternatif, etc., etc. Et puis derrière, on viole des enfants. Une affaire aux tentacules qui se perdent. Pourtant, dans l'affaire du Corral se profilent d'autres affaires, aussi graves sinon plus graves. Elles sont de l'ordre du réseau commercial international. Les avocats des inculpés demanderont le dessaisissement du juge Salzmann, qui aura eu l'outrecuidance de laisser Krief, qui entre-temps se sera rétracté sur ses premières déclarations, puis rétracté sur sa rétractation, partir aux Pays-Bas pour rechercher la trace de photos pédophiles réalisées dans l'enceinte du corral. Il reviendra bredouille, ceci justifiant la demande des défenseurs, je cite. Il accuse en effet le corral d'être un lieu de rendez-vous pour les pédophiles et cite plusieurs personnalités, dont un chargé de mission dans un secrétariat d'État et un ministre en exercice. Mais M. Krief repère sur des revues pornographiques que les policiers détiennent pour les besoins d'une enquête au cours de sur un trafic international pour les Pays-Bas, plusieurs jeunes pensionnaires du Corral. Son attention est attirée par une photo d'adulte insérée dans le dossier. Il a vu cet homme, dont il ignore le nom, acheté dans un lieu de vie qui n'est pas le Corral, des photographies d'enfants. Or, il s'agit d'un certain Wilhelmus, d'origine néerlandaise, trafiquant international de baby porno. Donc, baby porno, c'est des films de viol de bébés. À partir de ce moment-là, le travail des policiers devient plus difficile. Ils ne peuvent retrouver la trace des enfants qu'ils veulent interroger et qui sont passés par le corral. Leur nom ne figure sur aucun registre. Il est donc impossible de vérifier rapidement les accusations de M. Krief, qui aurait reconnu certains d'entre eux dans les revues de Wilhelmus. Offrant, alias Jorgensen, est à son tour placé en garde à vue. Les policiers ont saisi au siège de sa revue possible environ 2000 photographies et le fichier des abonnés, donc 2000 photographies pédopornographiques. Ils trouveront 15 jours plus tard parmi ces clichés, outre le portrait suggestif d'un adolescent nu du corral, 5 photographies représentant M. Offrand en compagnie d'un mineur dans des postures sans équivoque. Fin de citation. Comme pour le carnet du pasteur Doucet, je vous renvoie au podcast sur le pasteur Doucet, il ne sera plus question de ce fichier des abonnés, qui restera dans les mains de la police. Et pourtant, comme dans l'affaire du Cries, comme dans d'autres affaires, souvent on a des listings de clients, on a des listings d'abuseurs. C'est jamais exploité par la justice. Krief établira un lien entre le corral et Zandvoort sur la base des photos porno réalisées au corral. Offrand, balancé par Krief, n'a au départ aucun rapport avec Sigala. Puis les enquêteurs découvrent que Sigala et Offrand sont en relation depuis 1976, Offrand se chargeant de la rédaction des numéros du CRA qui parlent des lieux de vie de Sigala. Il s'agit tout simplement d'un réseau qui part d'un lieu de vie abritant des expériences sexuelles adultes-enfants et à une exploitation commerciale de ses dérives. Quelles sont les autres affaires qui découlent de l'affaire du Corral? D'abord, le Corral des Marques dans le Gard est un lieu de vie et le CRA, collectif réseau alternatif, donc bien un réseau, regroupe 34 de ces lieux, un réseau monté en 6 ans seulement. Si l'affaire n'avait pas éclaté, les bons contacts de Sigala au secrétaire d'État à la famille lui auraient permis de sanctuariser son réseau et de toucher des subventions pour s'agrandir encore et avoir une très bonne réputation. Un Sigala bien en cours donc qui a échoué à un pas du bonheur, lui qui annonçait tranquillement que « la loi s'arrête à ma porte » et on comprend bien pourquoi. Je cite « Notre point de vue est soutenu au ministère par des membres influents du cabinet de Madame Dufoy. Or, Madame Dufoy devait signer le 25 octobre, 12 jours après la révélation de l'affaire, une circulaire allant plutôt dans le sens du CRA. » Fin de citation. Il faut bien des complicités en haut lieu et dans la presse pour pouvoir tenir 5 ans sans anicroche avec un enfant violé et retrouvé mort en 77. Des plaintes diffuses, des enfants qui parlent, des soupçons qui grandissent, des encadrants qui, se sentant dans l'impunité, ne cachent même plus leur goût dépravé. Un an avant le déclenchement de l'affaire, en 81, les pratiques coralliennes, on va dire du coralline selon leurs propres expressions, pédophiles seront dénoncés lors d'une réunion des représentants des lieux d'accueil. 3 ans plus tôt, une directrice d'école expérimentale préférera retirer l'enfant qu'elle avait confié au choral, selon Le Monde du 19 novembre 82. Elle écrira au choral, je cite, « Notre pratique quotidienne avec les communautés nous a fait connaître plusieurs accidents graves et une situation psychologique tout à fait néfaste aux psychotiques. Je suis donc à regret, très en retrait de ce qui se réalise en France de parfois totalement irresponsable sous l'égide du CRAP. » Fin de citation. Le large réseau horizontal des lieux de vie de Sigala a tenu grâce à sa structure verticale qui remontait jusqu'à ce secrétariat d'État à la famille de Georgina Defoy et qui ne souffrira pas de cette proximité dangereuse puisqu'elle passera ministre des Affaires sociales en 84, excusez du peu. Surtout une femme adepte du mouvement sectaire « Invitation à la vie », mais déclarée comme telle 10 ans plus tard. La presse de droite fera état des soupçons de pédophilie dans le choral, mais celle de gauche relayera les pétitions et les lettres des intellectuels progressistes dans une énième pétition adressée au chef d'État, où je cite « On assiste, écrivait-il dans une pétition adressée le 25 octobre au président de la République, au développement d'une campagne d'insinuation, d'intimidation et de calomnie visant par cercle concentrique le choral, l'ensemble des lieux de vie alternatifs, les homosexuels et finalement la gauche tout entière. » Fin de citation. Alors donc là, c'est quand même extraordinaire, puisque on en vient à assimiler les pédophiles aux homosexuels et finalement à la gauche. Je ne sais même pas quoi dire, c'est extraordinaire. Alors, continuons. Une façon très politique de demander l'absolution. Justice et police ont donc fait leur travail, malgré les embûches en 82, mais le réseau a tenu bon. Les déclarations de Krief, malgré son passé psychiatrique, ont été recoupées à la fois par des enfants et par des suspects sur des faits qui remontent à 78. Contactée à l'époque, la direction de l'action sanitaire et sociale de l'Ardèche s'était déclarée incompétente puisque le choral est dans le Gard, peut-on lire dans Le Monde. En 76, déjà un indicateur avait assisté à des caresses prodiguées par un adulte à un enfant. Je cite « C'était peut-être thérapeutique », s'interroge-t-il encore aujourd'hui. Fin de citation. L'axe de la défense fondé sur des calomnies et des rumeurs ne tient pas devant l'avalanche et l'antériorité des faits recoupés. Mais les preuves absolues manquent, on n'en est pas encore à l'époque de l'ADN, car tout repose sur la parole et des descriptions relativement floues d'enfants déjà en difficulté personnelle et qui ont du mal à s'exprimer. Pourtant, Gilbert Mignacard, co-responsable du choral et ami de Claude Sigala, reconnaîtra des histoires de sexualité et pas à demi-mot. Je cite « C'est vrai qu'on a eu plusieurs histoires comme celle-là sur la sexualité ou autre. Il explique longuement la difficulté de la prise en charge d'enfants psychotiques, autistiques, d'anciens prostituées. Ils sont souvent provocateurs, c'est du rentre-dedans permanent. Mignaka met en doute les déclarations des enfants, dont l'un ne serait d'après lui qu'un voleur et l'autre un violeur. Il détient, paraît-il, la preuve de leur mythomanie, un diagnostic établi par le docteur Jean Ponzetto, chef de l'intersecteur de pédopsychiatrie du Gard. Mais le médecin, bien que favorable au choral, pour avoir pendant des années défendu cette expérience sans constater rien d'anormal, affirme aujourd'hui ne jamais avoir porté un tel diagnostic. Tout ce que m'a raconté M, donc Michel, un des 4 enfants qui a témoigné de manière précise, avait un accent de vérité, assure Madame Correa, et la mère de Nordine, qui habite un quartier populaire d'Avignon, est tout aussi persuadée que son fils n'a pas menti. Ici, dit-elle, Nordine commençait à se droguer à la colle. Il n'arrivait plus à le tenir, alors je suis allé voir le juge des enfants, qui l'a placé au choral. Je n'avais aucune raison de ne pas faire confiance au juge. Fin de citation. Le juge pour enfants savait-il les dérives déjà avérées du choral ? La justice de l'époque, comme toujours, a dit le droit, pas forcément la vérité, même si elle a entendu les enfants. Pourtant, tout était écrit, de la main de Sigala lui-même, je cite. Mais il reste les textes écrits bien avant que n'éclate l'affaire par M. Sigala et ses amis. Le CRA a publié plusieurs ouvrages. La peste gagne le grand psy, visiblement je vous aime, ou est mouvance. Dans ce dernier, on peut lire. Parfois, il naissent des rencontres pas évidentes pour tout le monde, avec plus de spontanéité qu'ailleurs, puisque notre société se montre plus répressive que tolérante dans ces eaux-là, jusqu'où l'affection, la tendresse, l'amour entre un adulte et un enfant. Pour moi, tout est possible entre 2 individus, quel que soit l'âge ou le sexe. Aujourd'hui, M. Mignacard ne se souvient plus de ce texte signé par un certain Oscar. Il se peut, dit-il, qu'on ait écrit cela, mais c'était pour provoquer les fantasmes des lecteurs. Fin de citation. Oui, bien sûr, en étant quelque chose de pas sérieux, c'était de la provocation, on rêve. Cela n'empêchera pas Sigala d'intenter une action en référé contre Témoignage Chrétien, la revue hebdomadaire qui a révélé l'affaire sur 3 numéros. Je cite, sous un titre à la une, Le Choral, nous accusons, Témoignage Chrétien avait dans un premier article présenté des témoignages anonymes faisant état de pratiques pédophiles au Choral. La semaine suivante, l'hebdomadaire qui reprenait ses accusations contre le Choral citait des témoins, mais ne publiait qu'une partie de la réponse des inculpés. Fin de citation. Dernier point qui touche à la basse police, selon le Canard Enchaîné, les frères Krief, Michel et Jean-Claude, sont tous deux les indicateurs des RG. Je cite « Le rôle passablement trouble des frères Krief dans cette affaire est confirmé par le Canard Enchaîné qui, dans son numéro du 27 octobre, donc 2 semaines après le scandale, affirme que le premier, donc Jean-Claude, était un indic des RG parisiens, grâce à 2 numéros de téléphone réservés aux indics des RG, écrit l'hebdomadaire. Jean-Claude joignait à la préfecture son contact, prénommé Pascal, et fournissait régulièrement des informations sur les milieux homosexuels parisiens qu'il fréquentait. Quant à Michel, affirme l'hebdomadaire, il avait ses entrées à la préfecture et s'était vu chargé d'espionner les milieux autonomes, proches d'Action Directe. » Fin de citation. Doit-on comprendre derrière ces révélations du Canard que le fond de l'affaire était un coup des RG, ou de la droite? Le pouvoir socialiste de l'époque, soutenu par un Canard Enchaîné qui a fait campagne active contre Giscard, considérant la police d'un mauvais œil. Une manière d'éclabousser le gouvernement via l'axe Sigala, Rosenzweig, Dufoy, voire Lang, et de mouiller toute la gauche dans le scandale. Un coup politique basé sur les on-dit, comme l'affirme la défense. Scherrer, balancé par Krief, avec un faux procès-verbal, admettra pourtant ses contacts avec Sigala. Je n'ai jamais contesté avoir rencontré Jean-Claude Sigala, le directeur du Choral des Margues, soit dans les colloques de la pédopsychiatrie, soit au Choral même, à plusieurs reprises, où je n'ai toutefois jamais séjourné. Mais il s'agissait de rencontres entre intellectuels, entre deux écrivains. Fin de citation. Cependant, il soupçonnera Salzmann, là encore ça résonne avec aujourd'hui, de viser plus large et plus haut. Je cite « Ce que cherche le juge, je l'ai compris aujourd'hui, c'est à établir l'existence d'un réseau international de pédophilie. » Fin de citation. Donc là, on est dans l'actualité avec le complotisme, l'anticomplotisme, les fake news. Vous voyez, comme quoi, il n'y a rien de nouveau. Le point Godwin pour le philosophe, René Scherrer, professeur de philosophie à Paris 8, inculpé, écrit dans Le Monde du 22 octobre, je cite « L'affaire du Choral n'est pas sans rapport avec le système adopté lors de l'affaire Dreyfus, l'intellectuel pédophile y prenant la place du juif. Malheureusement, il n'existe plus guère à l'heure actuelle parmi les intellectuels de Zola. » Que de Zola, oui. Fin de citation. Alors là, effectivement, on en vient à ce qui concerne Wanted Pedo, nous, ça fait des années qu'on est accusé soi-disant d'être des fachos, des soraliens, des antisémites, etc. Alors qu'évidemment, c'est complètement faux. Il y a des gens de toute origine dans l'association. Nous, tout ce qui compte, évidemment, c'est la protection de l'enfant. Tout ça à cause d'une interview que Max avait fait avant même la création de l'association à Égalité et Réconciliation au Festival de Cannes, parce que c'était le seul micro qui était tendu vers nous. Et c'est quand même incroyable. Et on va nous refaire la même affaire. On se prend dans les dents des mecs comme Debunker de Hawks, des mecs comme Tristan Mendès France, etc., etc. C'est vraiment triste. Et le mot de la fin à Claude Sigala, qui pardonne à Jean-Pierre Lanaise, qui, en s'enfuyant lors de l'enquête de 82, concentrera une nouvelle fois les soupçons, au grand soulagement des autres accusés potentiels. Fuyard ou pigeon ? Je cite. Je demande à Jean-Pierre de venir dire sa vérité à la justice, il n'y perdra rien, nous l'aiderons, la vérité est révolutionnaire, plus elle est simple, plus elle est révolutionnaire. Rends-toi Jean-Pierre, c'est le meilleur service que tu rendras au Choral. Nous continuerons à t'aider comme je t'ai aidé pendant les 2 ans d'enfermement à l'hôpital psychiatrique d'Uzès quand tu étais enfermé dans le blocos déplacement d'office. Fin de citation. Donc voilà, on va terminer juste en précisant que, évidemment, Wanted Pedo est totalement apolitique, même si effectivement ce réseau Choral était bien niché au milieu des milieux de gauche. Vous pouvez vous en convaincre parce qu'il y a d'autres réseaux qui sont totalement à l'extrême droite. Donc vous pourrez aller voir, par exemple, à l'époque, dans l'affaire qui impliquait Michel Quesnier, donc c'était le réseau Spartacus. Vous pourrez aller voir dans les réseaux de la Nièvre et de Lyon. Vous pouvez aller voir donc avec le pasteur Doucet, etc., où on voyait des gens qui étaient impliqués aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est vraiment pas... hélas, les réseaux pédophiles ne sont pas marqués politiquement d'un côté ou de l'autre. Et puis, voilà. Et puis, cette affaire, effectivement, est intéressante parce que finalement, on y retrouve avec l'ambiance des années 70 et les manières des années 70, mais on y retrouve tout ce qu'on retrouve plus tard, c'est-à-dire des réseaux pédophiles où on va créer du matériel pédopornographique, où on va le commercialiser, où on va également avoir du chantage. Et donc c'est souvent, et où il y a un lien avec les RG. Je vous renvoie par exemple à un réseau qui est sorti récemment, plus aux États-Unis, mais qui avait également des grands liens avec la France, qui est le réseau Epstein. Donc je vous renvoie au podcast, où là, pour une fois, on a le carnet noir, on a le carnet avec toute la liste. On a une liste de gens qui sont des gens extrêmement riches et extrêmement puissants dans le monde entier. Personne n'a fait l'effort parmi les journalistes de fouiller cette liste. Et où il y a également, donc pareil, où on filmait les ébats entre adultes et prostituées mineures, et où on faisait chanter les gens, notamment avec les services secrets américains et israéliens. Ce modèle-là est, hélas, ce qui, à mon avis, à notre avis, nourrit et justifie l'existence et la pérennité de ces réseaux pédophiles. Voilà. C'est pour cette utilité-là de tenir les puissants avec la chose la plus, entre guillemets, horrible qui existe et la plus difficile, enfin, comment dire, la plus lourde, si on doit la mettre sur la place publique pour quelqu'un qui serait accusé de ça, c'est la pire casserole que vous pouvez avoir, entre guillemets. Voilà. Et on peut à la fois s'en servir comme une casserole et à la fois aussi s'en servir comme une sorte de bizutage, initiation. Et notamment, on a des témoignages qui sont dans les milieux financiers et bancaires, notamment Roland Bernard, où en fait, on va faire entrer ces gens dans ces réseaux, on va leur faire ces choses-là avec les enfants, et c'est ce qui leur permettra de monter. Et s'ils ne le font pas, ils ne monteront pas. Comme ça, on ne fait monter que des gens qui sont tenus, que des gens dont on est sûr, puisque si jamais il y a un souci, on a des films d'eux en train de violer des mineurs. Vous voyez? Allez, sur ce, à la prochaine.